Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 10h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Xavier Besson.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière édition d'Afrique Matin ce dimanche. Et nous appelons dans un instant notre correspondante à Tunis. Jour de vote ce dimanche en Tunisie, premier tour de l'élection présidentielle. Le chef de l'État, Kais Saied, brigue un nouveau mandat, alors qu'une partie de l'opposition tunisienne a appelé au boycott, dénonçant un scrutin verrouillé. Dans ce journal également, le Burkina Faso et la prise de parole hier du président Ibrahim Traoré. Il assure entre autres que des résultats de l'enquête sur le massacre de Barsalogo seront rendus publics dans les prochains jours. Vous entendrez aussi un représentant de la société civile du Nord Kivu, quelques jours après le naufrage d'un navire dans l'est de la RDC et la mort de plusieurs dizaines de passagers. Et la Chine, Pékin qui promet plus $1 milliard de travaux pour rénover une ligne de chemin de fer entre la Tanzanie et la Zambie. Il y a bien trois candidats, mais quel est le véritable choix proposé aujourd'hui aux Tunisiens? Jour de vote ce dimanche en Tunisie, élection présidentielle et les bureaux de vote ont commencé à ouvrir il y a maintenant 1h30. Nous allons tout de suite à Tunis où nous retrouvons notre correspondante Amira Souilem. Amira, bonjour. Vous êtes en ce moment dans le centre-ville de Tunis, dans un bureau de vote près de l'avenue Bourguiba. Comment se déroule ce début de matinée?
Bonjour. Alors, la journée de vote démarre doucement et dans le calme ici, en cette journée ensoleillée à Tunis, où l'on voit des personnes venir voter après être passées au café ou au marché. J'étais en banlieue de Tunis à l'ouverture et je suis donc maintenant dans le centre-ville, comme vous le disiez. Alors, quelques petits problèmes techniques à noter. Les Tunisiens qui viennent voter doivent, pour le faire, accéder d'abord à une application en ligne. Et celle-ci semble chancelante en ce démarrage de scrutin. Patience donc pour certains.
Et Amira, l'un des enjeux de la journée, c'est aussi de savoir si ce scrutin présidentiel est autant joué d'avance que le disent certains opposants.
Oui, absolument. Une partie de l'opposition parle d'élection mascarade et est appelée à ne pas se déplacer au bureau de vote. L'autre, au contraire, appelle à le faire en masse pour, je cite, court-circuiter le système, comme ils le disent. Difficile de savoir ce qu'il va en être à ce stade. En l'absence de sondage, il est difficile de faire un réel état des lieux en puissance. Mais ce qu'on sent en allant sur le terrain, c'est que le président Kais Saied continue de bénéficier de la confiance d'une partie non négligeable de la population, bien soulagée de déléguer les clés du pays à un homme fort après une décennie post-révolutionnaire mouvementé. L'inconnu ici, c'est donc la participation. Je vous rappelle qu'aux dernières législatives, en janvier 2023, elle s'était établie à 11,3%.
Merci Amira Souilem, en direct avec nous ce matin de Tunis. Et il est prévu que les bureaux de vote ferment ce soir à 20h, heure locale, 21h, heure de Paris, donc pour ce premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Élection à venir, cette fois c'est au Tchad, et l'opposant Succès Masra et son parti Les Transformateurs qui réclament le report des scrutins prévus fin décembre, législatives, provinciales et communales. C'est l'une des conditions, disent Les Transformateurs, pour y participer. Les graves inondations qui touchent le pays en ce moment rendent impossible le fait de faire campagne, assurent les opposants tchadiens. Ils souhaitent aussi, entre autres, que soient revues les listes électorales, ainsi que le code et la composition des institutions qui vont gérer les scrutins. RFI 8h33 à Ouagadougou, au Burkina Faso, où le président de la transition a pris la parole hier, le capitaine Ibrahim Traoré. À l'occasion des 2 ans de son accession au pouvoir à l'issue d'un coup d'État, il a répondu à des questions des auditeurs sur la radio publique burkinabé et il est revenu notamment sur l'attaque de Barsalogo dans le nord du pays, quand des djihadistes du JNIM ont massacré plusieurs centaines de civils au mois d'août, et sur la récente tentative de déstabilisation que les autorités burkinabées disent avoir déjoué. Magali Lagrange.
Pendant 80 minutes, le capitaine Ibrahim Traoré répond aux questions d'auditeurs sur la lutte anti-djihadiste ou la situation politique et économique. Face aux tentatives de déstabilisation, il entend désormais durcir le ton.
Les comploteurs, actuellement, nous avons passé 2 années à sensibiliser, à parler, à mettre en garde. Les gens trouvaient qu'on mettait trop en garde. Mais c'était nécessaire pour que les Burkinabés voient d'eux-mêmes jusqu'où certains Burkinabés peuvent aller contre la patrie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, chacun va assumer.
Parmi les personnes que le Burkina Faso a récemment accusées de tentatives de déstabilisation figure l'ex-chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo-Damiba, en exil au Togo. Selon le capitaine Traoré, des contacts ont été pris avec les autorités togolaises.
Il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Actuellement, je pense qu'eux aussi doivent être choqués et surpris. Nous sommes parlé déjà au téléphone. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets. Une fois qu'on le fera, vous serez situé sur cette question.
Ibrahim Traoré est aussi revenu sur l'attaque de fin août contre les populations de Barsalogo. Elle visait sa personne, affirme-t-il, compte tenu des rapports qu'il a déjà eus avec cette commune quand il était en poste dans la région. Les responsabilités seront situées d'ici quelques jours et les sanctions vont tomber, prévient le chef de l'État burkinabé.
Magali Lagrange. Au Mali, c'est finalement hier que Youssouf Daba Diawara a été libéré. Le coordinateur de la CEMAS, c'est-à-dire le mouvement des partisans de l'imam Diko. Jeudi, il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis après avoir pris part à une manifestation interdite. Lui qui vient de passer ses 2 derniers mois en prison. Une mise au point a été nécessaire hier en clôture du sommet de la francophonie à propos de l'Est congolais. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, n'avait pas apprécié que lors du discours d'ouverture, le chef de l'État français parle de défense des souverainetés nationales, mais sans évoquer nommément l'Est congolais. Conséquence, Félix Tshisekedi a boycotté certaines des réunions qui étaient à l'agenda hier. Et Emmanuel Macron, dans la foulée, a rectifié le tir. Le président français a reprécisé que Paris appelait bien au retrait du M23 et des troupes rwandaises présentes sur le sol congolais et demandait aussi par ailleurs de procéder au démantèlement des FDLR ainsi que de tous les groupes armés présents dans le pays. L'Est congolais, où plusieurs dizaines de passagers manquent toujours à l'appel après le naufrage jeudi d'un bateau de passagers sur le lac Kivu, embarcation partie de Minova et qui a chaviré non loin de Goma. Ce matin, les autorités font toujours état d'une trentaine de morts. Et pour la société civile locale, cette situation est symptomatique de déplacements rendus compliqués par la guerre. Écoutez Voltaire Batumbi Sadiki, représentant de la société civile du territoire de Masisi.
Depuis que la cité de Sake a été prise par les assauts de M23, la population abandonne tous ses axes. La seule voie qui reste, c'est les bateaux. C'est alors que les bateaux sont surchargés. Tout cela qui prenait la moto, les véhicules, même pour le transport de vivres, tout passe par les lacs. Les voyageurs, les commerçants, mais aussi les vivres, tous les produits des chats passent par les lacs pour atteindre Goma. Et donc, toute la nourriture qui arrive à Goma, c'est à bord des bateaux et des bottes. Surtout les bananes plantées, ça va dans les bateaux, les maniocs et les légumes. Il fallait peut-être augmenter le nombre de bateaux sur ces taxes pour permettre l'évacuation des produits et des personnes. C'est un besoin qui est déjà qui est venu suite à l'occupation par les M23 de ces taxes.
Voltaire Batumbi Sadiki, représentant de la société civile du territoire de Masisi dans l'est de la RDC, interrogé par Alexandra Branjon. $1 milliard pour la Tazara, c'est ce que promet la Chine pour cette ligne de chemin de fer entre la Tanzanie et la Zambie. La Chine qui a construit cette même ligne dans les années 1970, notamment pour transporter le cuivre zambien vers l'océan Indien. Une ligne très utile à sa construction quand les relations étaient mauvaises avec le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, qui offre un autre accès à la mer. Et aujourd'hui, la promesse chinoise tente de réparer des décennies de sous-investissement. À Pékin, correspondance de Claire Broadhurst.
Outre ses intérêts liés aux nouvelles routes de la soie, le projet phare de Pékin, la modernisation du chemin de fer Tazara est cruciale pour l'exportation du cuivre zambien, une ressource essentielle pour les industries mondiales telles que l'électronique et les énergies renouvelables. Avec la Chine comme principal consommateur de cuivre, l'amélioration de cette infrastructure garantit un accès plus stable à cette matière première. Cette initiative répond également au projet d'investissement de l'Union européenne et des États-Unis dans les infrastructures africaines, notamment la rénovation du corridor de Lobito entre l'Angola et la Zambie, en passant par la République démocratique du Congo, une région abondante en gisements miniers. Les puissances occidentales prévoient de financer une nouvelle ligne de chemin de fer reliant la ceinture de cuivre zambienne à la côte atlantique à Lobito pour exploiter ces ressources stratégiques. La concurrence pour l'accès aux matières premières utilisées dans la production production de batteries pour véhicules électriques s'intensifie entre la Chine, l'Union européenne et les États-Unis. La Chine voit dans Tazara une opportunité de sécuriser ses approvisionnements à long terme tout en renforçant son influence politique et ses partenariats de développement durable. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
À Pékin, où il est maintenant 16h.